Je vous propose de faire une lecture très courte dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12. Un texte que l'on connaît. Romains chapitre 12, à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, virgule, la ponctuation a son importance. Frère, virgule, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. L'épître de Paul aux Romains se divise en deux parties. La première partie, qui est plus une partie théologique, où Paul va expliquer le salut par grâce, ce qu'il a, ce qu'il est et ce qu'il représente. Et la seconde partie, eh bien, commence à partir de ce moment-là, si je vais utiliser un gros mot, mais il se termine, la partie théorique se termine par une doxologie, comme on l'appelle eh bien, en théologie, et commence ici. Pendant 11 chapitres, Paul a expliqué que nous sommes sauvés par grâce, par grâce, par grâce. Dans l'église de Rome, il y avait un problème, et les épîtres sont écrites par l'apôtre pour résoudre des problèmes. Il y avait les païens qui regardaient les juifs en disant « Hey, vous, vous n'êtes pas bien parce que vous avez crucifié le Christ ». Et les juifs qui disaient « Oui, mais en attendant, nous, on est issus de la postérité du Christ ». Et Paul va répondre à ces questions, va répondre à ces objections. Et dans le chapitre 1er, il va expliquer aux païens ben « Vous aviez votre conscience, vous aviez la création et vous avez servi la créature plutôt que le créateur ». Et aux juifs, il dira « Écoutez, ce n'est pas la peine de juger hein, parce que vous n'êtes pas mieux qu'eux ». Et de toute manière, il va remettre la synthèse dans le chapitre 3 en disant que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la grâce de Dieu. Donc vous êtes tous égaux devant le péché, vous êtes tous égaux devant la grâce que vous avez en Jésus-Christ. Et donc, après cette partie théologique, Paul attaque la partie pratique de l'Épître aux Romains. Et il la commence de manière extrêmement intéressante et de manière extrêmement forte. Donc, je vous exhorte donc, puisque vous avez été sauvés par grâce, puisque le sang du Christ a coulé, puisque le sang de l'agneau de Dieu a coulé, puisque vous ne méritiez rien et que pour autant vous avez tout, alors, frère, je vous exhorte, à cause de la compassion que Dieu a exercée pour vous, à faire quoi ? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Puisque vous avez été sauvés par grâce, alors, offrez vos corps. C'est la conséquence même de l'amour de Jésus. C'est la réponse que nous devons donner à l'amour et aux compassions de notre Dieu. L'évangile de Jean, Jésus dira que, viendra un temps où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et je pense que nous sommes tous des Melchisédèques en puissance, des adorateurs du Dieu Très-Haut. Nous avons une double casquette. Non seulement nous sommes sacrificateurs, mais nous sommes également sacrifices. Nous sommes non seulement appelés à offrir nos vies, à les mettre sur l'autel de manière volontaire. C'est la seule réponse qui existe à l'appel de la croix, à l'appel de la grâce. Ce que Jésus veut, on le verra un petit peu plus tard, ce ne sont pas simplement des intentions. Ce n'est pas simplement de la bonne volonté. Mais face à la grâce, la seule réponse qui soit possible, c'est d'offrir nos corps. Premier point que nous allons voir, c'est le terme « offrir ». On va passer rapidement dessus. Mais Paul utilise une forme d'impératif, « offrir ». Sous ce terme d'offrir, il y a cette notion de gratuité et de volontariat. Beaucoup ce passage des évangiles lorsque Jésus dira lui-même « Personne ne me prend ma vie, mais je la donne, je l'offre. » Personne n'a pris ma vie, personne n'a pris la vie de Jésus. Il est monté volontairement sur le bois de la croix, en pensant à nous pour que nous soyons sauvés. Et de la même manière, personne ne nous force à nous convertir. Le Saint-Esprit exerce une douce pression sur nos vies, exerce une douce pression sur nos cœurs. Et peut-être ce matin, dans ton cœur, as-tu cette pensée de dire « Ouais, il y en a assez maintenant. J'en ai assez des bonnes intentions. J'en ai assez de pensées à faire. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est peut-être le moment de dire, d'accord, je veux offrir. Cette notion d'offrir, il y a cette notion de gratuité. On offre, sans rien attendre en retour. Un vrai cadeau, c'est ça. C'est sans rien attendre en retour. Et rappelons-nous, lorsque nous avons dit au Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je t'offre ma vie. Il n'y a pas de mais derrière. Je veux te faire plaisir. C'est un retour logique. C'est un retour logique des choses. On offre pas un cadeau qui nous a été offert et on ne le reprend pas. Vous imaginez ? J'offre une superbe voiture à Patrick. Et puis, 3 jours après, je vais le voir, je lui dis, oh, écoute, tu me la rends. Hein. Tu me la rends. Je pense qu'il serait un tantinet offensé, non ? Il serait un tantinet triste. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit de faire une chose pareille. Non, quand vous offrez un cadeau, vous l'offrez. Vous n'allez pas le redemander. Vous n'allez pas montrer la facture. Hein ? Non ! Mais parfois, avec Jésus, on lui offre nos vies. On lui donne nos vies. Et puis derrière, on prend la facture en disant « Oui, mais par contre, tu me bénis. Hein. Oui, mais par contre, tu exauces mes prières. Oui, mais par contre, voilà. » Non. Offrez. Gratuitement, sans rien attendre en retour. Et nous verrons, eh bien, tout à l'heure, que finalement, ce n'est que quelque chose d'infiniment petit comparé à ce que Jésus a pu faire. Offrez vos corps. Deuxième axe. Notre âme, vous savez, appartient déjà à Dieu, de par notre salut. Donner notre cœur au Seigneur Jésus, notre âme appartient déjà à Dieu. C'est la part de Dieu dans le salut. Jésus a acquis notre âme à la croix. Et là, Paul va plus loin et dit, attendez, c'est bien, maintenant offrez vos corps. C'est quoi offrir son corps ? C'est à la fois beaucoup de choses et peu. Et là, Paul le définit quelque part. Le sacrifice de vos vies, le sacrifice de vos corps doit avoir 2 axes. Premièrement, la sainteté. Alors, de suite, la sainteté n'est pas la perfection. Heureusement, hein. On peut être saint sans être parfait. Ça vous fait du bien de l'entendre ? Moi, ça m'a fait du bien de l'écrire, en tout cas. Peut-être que je me suis senti concerné. Hein. La sainteté n'est pas la perfection. Alors, c'est quoi un sacrifice saint ? C'est, tout d'abord, il faut remettre dans la culture de l'époque. Les Romains, comme les Grecs d'ailleurs, avaient cette fâcheuse tendance à penser que le corps n'était qu'une enveloppe. Et que, de ce fait, on pouvait faire n'importe quoi avec son corps tant que eh bien, l'esprit et l'âme appartenaient à son créateur. Dans l'église de Corinthe, il y avait même des hommes qui allaient voir les prostituées et sans que ça ne leur pose de problème. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul leur dira « Mais ne savez-vous pas que lorsque vous allez voir une prostituée, eh bien, vous êtes un seul corps avec elle ?» Vous notez, ce n'est pas une seule chair. Ce n'est pas l'acte sexuel qui fait le mariage. C'est un seul corps, ce n'est pas une seule chair, à opposer au texte de la Genèse. Et vous faites un seul corps avec elle. Mais comment vous, qui êtes le temple du Saint-Esprit, vous pouvez faire de telles choses ? Comment est-ce que vous, qui êtes eh bien, habité par le Saint-Esprit, vous pouvez associer votre corps à de l'impudicité, à des choses mauvaises ? Et sans que nous puissions aller aussi loin, parfois nos corps peuvent être l'objet de certaines formes, j'allais dire de trahison vis-à-vis de celui qui nous habite. Avec nos mains, nous pouvons faire des tas de choses. Nos yeux peuvent se poser à bien des endroits. Offrez vos corps. Notre corps fait partie du sacrifice. C'est pas simplement venir à l'église, s'asseoir sur une chaise, avoir une forme de piété qui rend notre sacrifice agréable, mais c'est notre vie au quotidien et notre vie tous les jours qui fait de nous des adorateurs véritables et authentiques. Je vais être un peu désagréable. On peut chanter, on peut élever les bras, on peut chanter les plus beaux chants du monde. Si nos corps
dans notre quotidien ne sont pas saints, et on va définir ce que c'est que la sainteté, alors peut-être manquons-nous notre véritable vocation d'adorateur.
La sainteté, premier axe, je l'ai qualifié comme un sacrifice qui est cohérent. Les Corinthiens, je l'ai signalé tout à l'heure, avaient une vie qui était en désaccord par rapport à ce qu'ils croyaient, par rapport à ce qu'ils confessaient de leurs lèvres. Et je crois que la sainteté nous parle premièrement de cohérence. Est-ce que ce que je confesse de mes lèvres, quelque part, je le vis dans mon corps, je le vis dans mon quotidien? Est-ce que la dimension spirituelle qui est la mienne, est-ce que j'essaye, tant que faire se peut, de la vivre dans mon quotidien? Y a-t-il une cohérence entre ce que je dis, entre ce que je lis et ce que je fais? C'est une bonne réflexion, ça, non? Je vous la laisse sur le cœur. Premier axe de la sainteté. Le second axe, c'est un sacrifice saint, c'est un sacrifice qui se met en règle. C'est-à-dire que ce n'est pas un sacrifice qui est parfait. Je le redis pour bien enfoncer le clou. Mais c'est un sacrifice qui, lorsqu'il sent la voix de l'Esprit de Dieu éclairer quelque chose de sale en lui, qui passe par la repentance et qui met tout en œuvre pour rentrer en cohérence avec ce que le Saint-Esprit a mis sur son cœur. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne le serons certainement jamais, hormis dans la gloire, lorsque nous aurons revêtu ce corps incorruptible. Simplement, tendons vers la perfection. Avançons vers la perfection et demandons-nous, Seigneur, comment est-ce que je peux te ressembler ? La sainteté, c'est ça. Ce n'est pas ne jamais commettre de péché, ce n'est pas ne pas être lisse, ce n'est pas porter une façade. C'est tout simplement se dire, Seigneur, c'est vrai que parfois, j'ai tendance à mentir. Je te demande pardon et je veux vraiment éradiquer cette chose-là de ma vie. Seigneur, tu vois l'agressivité que je peux avoir vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mon épouse, vis-à-vis cette colère qui monte parfois en moi et qui me pourrit la vie. Je sens vraiment que c'est un péché. Je sens vraiment que ça t'attriste. Seigneur, je vais le mettre en règle vis-à-vis de toi. Troisième axe de cette sainteté, c'est un sacrifice saint, c'est un sacrifice qui n'a pas honte de ce qu'il est, mais qui offre le bon et le moins bon. Offrez vos corps. J'ai l'habitude de le dire, mais quand j'offre mon corps, j'offre la boîte et ce qu'il y a dedans. Ça veut dire que quand j'offre mon corps, j'offre ma tête, avec les pensées, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. J'offre mes bras avec la force, qu'ils soient forts, qui symbolisent la force, qu'ils soient forts ou qu'ils soient faibles. Je n'offre pas ce qui me semble être le meilleur à Dieu, mais j'offre mon corps dans tout ce qu'il est, dans tout ce qui est beau, dans tout ce qui est laid, dans tout ce qui est fort, dans tout ce qui est faible. Je mets tout sur l'autel et lui fera le tri. Mon frère, ma sœur, ne te considère pas comme un sacrifice médiocre. N'offre pas uniquement ce qui peut te sembler beau. Ne t'approche pas de Dieu uniquement avec, finalement, les parties de ta vie qui te plaisent. Mais offre ton corps, offre ta vie. Ne t'inquiète pas de ce qu'il peut y avoir de mauvais en toi. Ne t'inquiète pas de ce qu'il peut y avoir de laid en toi. Ne t'inquiète pas de ce que tu ne peux pas vaincre aujourd'hui. Ne t'occupe pas de tes liens. Ne t'occupe pas de tes faiblesses. Ne t'occupe pas de tes incapacités. Mais offre ton corps dans tout ce qu'il est. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas à ce qui te fait peur. Ne regarde pas à ce qui te blesse. Ne regarde pas à ce qui te conditionne. Mais offre ton corps. Avance vers Jésus. Offre ta vie. Et là, il se passera quelque chose. C'est pendant que tu seras sur l'autel, alors que le Saint-Esprit y mettra le feu, tu te relèveras et tes liens seront brisés. Amen. Tes liens seront consumés. Offre ton corps. Ne cherche pas à offrir un sacrifice parfait, mais offre un sacrifice saint. Amen. Offre un sacrifice saint. Amen. Saint-Esprit fera le tri. Amen. N'attends pas d'être parfait pour louer ton Dieu. N'attends pas d'être un chrétien irréprochable pour offrir le fruit de tes lèvres, mais également le fruit de tes actes. Je vais vous dire un secret, ça peut-être vous étonner. Mais si je regardais à moi, je ne serais jamais rentré dans le ministère et je n'y resterai jamais.
Simplement, on offre nos corps. On offre ce que l'on est. De beau, de pas beau, c'est pas grave. Offre tes tripes. Vous savez, ces parties-là qui ne sentent pas bon, où il y a tellement de choses qui se mélangent, Saint-Esprit fera le tri. La sanctification n'est pas le fruit de notre sueur, mais c'est le fruit d'une vie qui est mise sur l'autel et qui est sanctifiée par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça un sacrifice saint. C'est un sacrifice qui est cohérent. C'est un sacrifice qui ne regarde pas ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, mais c'est un sacrifice de foi. Comme un sacrifice vivant. Là aussi, il y a plusieurs axes. Quoi un sacrifice vivant ? À l'époque de l'Ancien Testament, les sacrifices qui étaient offerts, c'était des sacrifices morts. On approchait l'agneau de l'autel. Le sacrificateur posait sa main en signe de substitution, puis clouc, quick. Ça avait un avantage, c'est qu'au moins on était sûr qu'il ne descendait pas de l'autel. Là, avec nous, le Seigneur, sous la grâce, il prend un risque parce que, étant donné qu'on est vivant, on peut prendre nos jambes à notre cou et puis dès que le feu du Saint-Esprit se met à nous faire passer par le creuset de l'épreuve, oulala, c'est chaud ! Je m'en vais ! Je fuis ! Eh oui, on n'est pas attaché. On est vivant. Un sacrifice vivant ? Allez, trois axes. Premièrement, c'est un acte, un sacrifice vivant. Certes, le fruit de nos lèvres est important, mais ce n'est pas tout. Mais ça peut même être rien s'il n'y a rien derrière. Pardon. Premièrement, c'est des actes précis et ancrés dans notre quotidien. L'auteur aux Hébreux, Hébreux 13, Jacques-Olivier citait ce texte jeudi soir au chapitre 15 et au verset 16, verset 15 et 16, pardon, nous dira « Par lui, c'est par lui qu'on offre les sacrifices, hein, d'accord ? Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, ok ? Cependant, parce que je pense que les Hébreux avaient la même tendance que nous, hein ? Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Et je pousse le raisonnement un peu plus loin, si vous me permettez. Pardonnez-moi si je vous surprends quelque peu. Mais un sacrifice, si mon sacrifice n'utilise n'est que le fruit de mes lèvres, peut-être n'est-il pas aussi vivant que ce que je peux penser. Peut-être. Parce que je suis un sacrifice vivant, je m'ancre dans mon quotidien, je manifeste la foi dans mon quotidien. Je fais du bien, je fais l'hospitalité lorsque je le peux, lorsque eh bien, quelque chose se présente devant moi. J'ai entendu un don spirituel qui nous parlait de cette parabole du bon samaritain. Quelqu'un est blessé au bord du chemin, ben, on n'est pas un scribe, on n'est pas un lévite, je ne peux pas le toucher, sinon je vais perdre ma purification. Et en plus, je pars en congé. Il faut savoir que Jéricho était le repos des religieux de l'époque. Et je pars en congé. Non. Parce que je suis un sacrifice vivant. Je fais vivre ma foi. Deuxième axe, c'est un sacrifice qui est perpétuel, le sacrifice vivant. Jésus, dans le tabernacle céleste, l'auteur aux Hébreux nous dit qu'il fait l'aspersion du sang. Et je pense que me connaissant, nous connaissant un petit peu, enfin surtout les autres églises, il doit en asperger du sang, hein, pour pardonner les fautes des autres chrétiens. Heureusement, vous, c'est bien, ça va. Ça va. Et il n'arrête pas. J'imagine ça comme ça. C'est mon imagination. D'accord ? J'image les choses. Où est-ce que je veux en venir ? Un sacrifice vivant, le sacrifice vivant de ma vie que je mets sur l'autel, le corps que j'offre, c'est tous les jours. C'est sans cesse. C'est à n'importe quel moment. Que je sois riche ou que je sois pauvre, que je sois fatigué ou que je sois en bonne santé, que j'en ai envie ou que j'en ai pas envie, eh bien je reste un sacrifice que Dieu utilise et qui manifeste les compassions qu'il a reçues de la part de Dieu. Je reviens au début pour bien ancrer le texte. dans mon quotidien.
Troisième axe,
je passe vite parce que ça vous le connaissez. Ce qui est vivant change. J'étais petit, je suis devenu grand. Si, j'étais petit à une époque.
Et finalement, le sacrifice de nos vies a vocation à changer. Et là, j'ai envie de vous poser une question, mes frères et sœurs. Est-ce que ce que vous offrez à Jésus s'est enrichi?
Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous vous êtes converti, nous étions des bébés spirituels. Donc, on n'avait pas grand-chose à offrir, entre guillemets. On était un petit peu immature, on était faible, nos bras n'étaient pas capables de porter grand-chose. Puis, dès qu'on ouvrait la bouche, c'était souvent pour dire un truc un peu bizarre. Mais le Seigneur s'en servait. Et puis, au fur et à mesure, on a été enrichi par la parole de Dieu. On a reçu des bénédictions particulières de la part de Dieu. Et quelque part, on est devenus des hommes. On est devenus des femmes. On est devenus des colonnes. On a eu une connaissance spirituelle des choses. Est-ce que le sacrifice que nous sommes, la manière de rendre un culte à Dieu, a évolué en même temps que notre croissance spirituelle?
J'entends des amens, donc c'est bien. Ou alors, est-ce que finalement, je ne veux pas être du tout dur, mais finalement c'est étal. J'ai donné ma vie à Jésus, 15 ans après, j'ai beau avoir grandi, j'ai la même piété, je sers de la même manière, et finalement, il n'y a rien qui se manifeste de plus aux yeux de Dieu.
Un sacrifice vivant, ça grandit, ça évolue. Et ce que j'offre à mon Dieu doit évoluer en fonction de ma maturité spirituelle. Hier, je n'avais peut-être que 2 pites à offrir. Je prends bien sûr référence par rapport à ce texte des évangiles, cette veuve qui va mettre les 2 pites et que Jésus va louer.
Et je pense qu'après avoir fait ce geste, le Seigneur a dû faire en sorte qu'elle en ait un peu plus de 2 à offrir. Je ne sais pas, ça encore c'est mon imagination. Elle ne peut pas se contenter de mettre 2 pites tout le temps. Parce que on grandit, lorsqu'on en évolue, le nombre de pites que l'on met dans le tronc, sans parler du tout d'aspect financier, je n'en suis pas là, je parle d'aspect spirituel, doit également évoluer avec. Vous me suivez dans mon raisonnement? Ok. Donc, un sacrifice saint, un sacrifice vivant. Et finalement, Seigneur, quel est le sacrifice que tu veux que je sois aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Quel sacrifice vivant veux-tu que je sois aujourd'hui? Quel type de sacrifice vivant? Peut-être que je suis toujours le même depuis le début, et ça, j'en veux plus, Seigneur. Je veux être le sacrifice que tu veux aujourd'hui, celui que tu veux aujourd'hui. Maintenant, on va attaquer le corps du message. Offrez vos corps comme un sacrifice. C'est-à-dire que l'esprit dans lequel nous devons nous offrir, c'est celui-ci. C'est-à-dire comme des sacrifices. Vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, il y a bien des mauvaises manières de donner. On peut monter sur l'autel, on peut y mettre le feu, et finalement, parce que mourir en martyr nous fait plaisir. Parce qu'on y trouve une certaine gloire. Je schématise. On peut sacrifier des choses pour nous, afin d'être bénis. Les pharisiens sacrifiaient énormément de choses, mais Jésus dira qu'ils avaient leur récompense sur la terre et qu'ils ne l'auront pas au ciel, parce qu'ils avaient l'admiration des hommes. Le véritable sacrifice, c'est celui qui est fait dans le cœur. C'est celui qui est tourné vers Dieu et vers Dieu seul. C'est un cadeau que l'on fait pour Dieu. C'est la seule raison que nous avons de donner à Dieu. Seigneur, je veux te faire plaisir. Et la bonne manière de donner, finalement, on le trouve au travers de l'exemple d'Abraham. Vous connaissez ce texte dans le livre de la Genèse, Abraham qui va aller sacrifier Isaac. Quand Dieu s'adresse à lui, dit, tu vas aller sacrifier ton fils, ton unique. On dirait que Dieu oublie Ismaël, d'ailleurs, dans l'histoire.
Voilà.
Et là, Abraham, au travers de son attitude, nous donne les bases d'un bon sacrifice. D'un sacrifice, d'un don qui sera vraiment un sacrifice. Premièrement, on voit de la spontanéité dans l'attitude d'Abraham. Le texte de la Genèse nous dit que de bon matin, moi je suis toujours effrayé lorsque je le relis, je l'ai relu ce matin, ça m'est encore sauté au visage. Vous imaginez, allez sacrifier votre fils, moi, je traîne jusqu'au soir, moi. Je traîne jusqu'au soir. Non. Abraham, de bon matin. C'est-à-dire qu'un bon sacrifice, c'est celui qui est fait de suite. C'est-à-dire que c'est celui qui répond à l'élan du cœur. Seigneur, tu me le demandes, je le fais. Il n'y a pas la tête qui vient là. Seigneur, tu me le demandes, je le fais. Tu le mets sur mon cœur, je le fais. Peu importe ce que ça m'a coûte, je le fais. Et pendant un moment, il va voir ses serviteurs, et puis ensuite, plus il va s'approcher de cette montagne, Mont Morija, plus... À un moment donné, il est dit qu'il voilà, il va partir seul. Et le bon sacrifice, c'est celui qui se fait seul. Il n'y a pas de pression humaine autour. Il peut y avoir des conseils humains, mais il n'y a pas de pression humaine. Il n'y a plus ses serviteurs, il est seul avec Isaac. Il a le couteau. Et il continue à y aller. Troisièmement, il va aller au bout de sa démarche. Le bon sacrifice, il n'est pas basé sur une intention, mais il est basé sur une volonté d'aller jusqu'au bout. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, nous dit la parole de Dieu. Quatrièmement, il va mettre tous les moyens en place pour réussir. Il va prendre le bois, il va prendre le feu, il va prendre le couteau, il va prendre Isaac, il va prendre les montures qui vont bien, et il va prendre la boussole pour aller au bon endroit, enfin je pense. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour réussir. Là aussi, mon esprit tordu me fait penser que j'y serais peut-être allé, mais je suis ballot, j'ai oublié le briquet. Je peux pas. Ah, le couteau, mais comment je vais faire? J'ai pas le couteau. Bon, il faudra que je recommence demain. Étant donné qu'il y a plus de 3 jours de marche, 3 jours de gagné, quoi. Ça vous rappelle personne, ça? Seigneur, je suis d'accord pour te sacrifier, ça. Je suis d'accord. Alors j'y vais, je me mets en route. Oui, mais j'ai peut-être oublié un truc, il y a peut-être autre chose à faire. Seigneur, j'ai pas la force de le faire. J'ai pas la force. Voilà. Finalement, on ne met pas en place les moyens nécessaires. Cinquièmement, il ne va pas négocier le sacrifice. Zéro compromis. Il ne va pas dire à Dieu, écoute, ok, je préférerais Ismaël personnellement. Hein. Est-ce que c'est pas possible? Non. Écoute, tu m'as dit ça, ok, j'y vais. Je le fais avec l'élan du cœur, je mets tous les moyens en place et je ne négocie pas. Et il va le faire avec foi. L'auteur aux Hébreux nous dit qu'il va le faire parce qu'il était persuadé que Dieu était capable de ressusciter. Et là, on arrive sur le point peut-être important, ce qui ne veut pas dire que le reste ne l'était pas. Le sacrifice qui est vivant, qui est saint, alors il n'est pas détruit. Lorsque j'offre à Dieu, avec ses motifs de cœur, alors il se passe exactement la même chose que pour Abraham, c'est que le sacrifice, non seulement il n'est pas détruit, mais en plus il est peaufiné. Regardez ce qui se passe, Abraham ne va pas perdre Isaac, mais il va gagner une descendance nombreuse. Abraham ne va pas perdre un fils, mais il va gagner un serviteur de l'Éternel. Abraham ne va pas perdre la foi, mais au contraire, il va doper sa foi et devenir l'un des pères, le père de la foi. Parce qu'il investit, parce qu'il obéit. Alors, le sacrifice, non seulement il n'est pas perdu, mais il est beau. On hésite parfois à investir du temps. On hésite parfois à mettre notre famille sur l'autel.
On hésite parfois à mettre nos travails sur l'autel. On hésite parfois à mettre notre fatigue physique sur l'autel. On est en perpétuelle négociation. C'est pour cela que le sacrifice ne donne rien. Tu perds avec Dieu parce que tu gardes et que tu calcules. T'es sans arrêt. Peut-être que cette parole s'adresse à quelqu'un en particulier. T'es sans arrêt en train de calculer. D'anticiper. De regarder à ce que tu perds. De regarder à ce que tu vas perdre. De regarder le prix du couteau. Regarder le prix du bois. Regarder le prix du sacrifice. Abraham ne va pas calculer, il va vivre. Et là, non seulement le sacrifice ne va pas être détruit, mais il va se multiplier. Et cette fois, que tout ce que tu investiras avec ces motivations-là, dans la machine de Dieu, alors, ça se multipliera. Ça se multipliera. Rien n'est impossible à Dieu. Il est nécessaire de réinvestir nos bénédictions. La bénédiction peut parfois devenir une malédiction. Vous savez, les Israélites, il y avait la manne qui tombait tous les jours. Là. Et quand ils la gardaient, qu'est-ce qu'elle faisait cette manne? Elle moisissait. Et vous savez, dans nos vies, peut-être qu'y a-t-il des bénédictions qui sont moisies. On ne les a pas réinvesties, on les a gardées pour nous. Elles sont moisies. Et on s'étonne que ça ne sente pas bon. Si le grain de blé ne meurt, alors il ne peut pas porter de fruits. Il ne peut pas porter de fruits. Seigneur, t'as béni, t'as donné un conjoint, réinvestis ton mariage. Il t'a donné des enfants, réinvestis tes enfants. Il t'a donné des talents, réinvestis tes talents. Il t'a donné une promotion professionnelle, ben réinvestis ta promotion professionnelle. Ne la garde pas pour toi, c'est en train de moisir. Ça moisit. En conclusion, si, je vous assure, c'est vrai. Ou pas. Trois points. Ce qui sera de votre part un sacrifice raisonnable. Et en grec, ça veut dire quoi? Le mot grec, vous devriez le savoir, je vous le dis suffisamment. Allez, mon dessert de ce midi pour celui qui trouve. Non? Le mot grec, c'est logikos. Ce qui a donné en français, là par contre, il n'y a pas de récompense, hein, c'est trop facile. Ta. Logique. Ce qui sera de votre part un sacrifice logique. Quelqu'un a dit un jour que peut-on appeler sacrifice le simple fait de rembourser une partie de la grande dette que nous avons envers notre Dieu et que nous ne pourrons jamais rembourser. Il ne s'agit nullement d'un sacrifice, mais d'un privilège. Je leur dis. Peut-on appeler sacrifice le simple fait de rembourser une partie de la grande dette que nous avons envers notre Dieu et que nous ne pourrons jamais rembourser? Il ne s'agit nullement d'un sacrifice, mais d'un privilège. Je n'ai pas besoin de commenter. Lorsque je sacrifie, je ne fais pas un exploit, je fais tout simplement ce que je dois faire. Et lorsque je le fais avec bon cœur, le Saint-Esprit atteste à mon cœur que j'ai raison. Et remplit mon cœur de joie. Deuxième point, Ici, on a la définition de la véritable adoration. Véritable oration, l'adoration ne se traduit pas au travers, uniquement, ne soyons pas manichéens, au travers de chants ou de louanges, mais au travers d'une vie offerte sur l'autel. Le véritable adorateur, c'est celui qui offre sa vie. C'est une réponse simple aux impératifs de la grâce, et finalement, c'est le contraire qui ne serait pas normal. Et cette dernière citation, cette avant-dernière citation, qui dit que, je la retrouve parce que c'était mon introduction normalement, voilà. La véritable victoire n'est pas d'essayer d'obtenir tout ce que l'on peut de Dieu, mais de lui donner tout ce que l'on a. Je trouve ça beau, moi. Hein ? Notre objectif, ce n'est pas de pomper Dieu, comme les sangsues qui disent « donne, donne, donne », mais si je veux être ce sacrifice et répondre aux compassions de Dieu, vous voyez que je remets, hein, alors mon attitude, ça doit être de dire « Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner ? Qu'est-ce que je peux te donner ? Qu'est-ce que je peux te donner ?» Qu'est-ce que je peux te donner ? Est-ce qu'on ose faire monter cette prière à Dieu ? Eh bien, on va le faire. On va rester 30 secondes dans le silence. Et puis, on va demander au Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner ? Qu'est-ce que je peux t'offrir ? Afin d'être un sacrifice saint, vivant, et de ne faire finalement que ce que je dois faire. Merci de nous donner cette qualité d'adorateur, Seigneur. Non pas des hommes superficiels, non pas des femmes superficielles, emplies d'apparence, Seigneur, mais qui pourront vraiment élever vers toi ces mains pures. Seigneur, apprends-nous à offrir nos corps. Te le demandons ce matin, Seigneur. Je ne veux pas offrir de bonnes intentions. Je ne veux pas offrir de vœux pieux. Mais je veux offrir mon corps. Je veux offrir ma vie. Peut-être remettre sur l'autel ce que j'en avais enlevé. Seigneur, mets sur nos cœurs des mobiles purs, des mobiles saints, des mobiles qui t'honorent. Seigneur, que notre vie soit pour toi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis préoccupé de moi et pas de toi. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je te dis donne et j'ai oublié de te demander, Seigneur, ce que tu voulais de moi. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi cette mentalité. Donne à mon frère, ma sœur, cette mentalité. Apprends-nous à le faire, Seigneur, pour ta gloire, afin que nous soyons ces lumières, ces sacrifices vivants, Seigneur, tout simplement qui te réjouiront. C'est mon seul désir, c'est notre seul désir, réjouir ton cœur de Père. Dans le nom de Jésus. Amen.